Bonjour, nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui Régine Robin, dont nous ont mis en appétit il y a déjà plus d'une dizaine d'années, d'une part Berlin Chantier, un livre absolument magnifique, ainsi que Mégapolis, que Régine Robin a consacré à quelques grandes mégapoles du monde contemporain, Londres, New York, Los Angeles, Tokyo, Buenos Aires. Et voici qu'aujourd'hui, Régine Robin nous propose une sorte de troisième volet de ses vagabondages et de ses réflexions sur les très grandes villes, qui est consacrée cette fois-ci à Paris. Sous le titre Le mal de Paris. Avant de lui poser la première question, je voudrais d'abord lire l'exergue que Régine Robin a choisi parce que je le trouve magnifique. Dans l'ambition de faire une œuvre, il y a encore de la puérilité. Une fois cette puérilité comprise et dépassée, on écrit de livres si on a encore envie d'écrire qu'en forme de longues et tranquilles conversations. Une longue et tranquille conversation. Eh bien, c'était une conversation de cet ordre que nous allons procéder maintenant. C'est une phrase d'Alberto Savigno. Est-ce que d'abord, avant de commencer, peut-être vous avez un commentaire sur le choix de cet exergue?
Oui, bien l'exergue marque quand même l'âge d'une certaine façon, c'est-à-dire j'ai écrit pas mal de livres et à un moment donné, je me suis demandé, heureusement pas très longtemps, mais je me suis quand même demandé pourquoi ça pouvait continuer d'une certaine façon. Et c'est au moment où je tombais sur la lecture d'un de ses livres et je suis tombée sur cette phrase et je me dis, ben oui, voilà. Pourquoi on écrit? Ben, quand on a fini un peu avec le fantasme d'œuvre, même s'il y a quand même quelque part œuvre, ben, on a vraiment envie d'écrire ce qu'on a envie d'écrire. Donc c'était, je trouvais que c'était le ton qui convenait. Voilà ce que j'ai. Ça me plaisait.
Merci. Alors, ma première question est toute simple. Elle porte sur le titre que vous avez choisi de donner à ce livre, Le mal de Paris. Pourquoi le mal de Paris?
Alors, il faut que je vous fasse une confidence, mais vous ne la répéterez pas. Ça n'était pas mon titre, Le mal de Paris. J'avais trouvé un titre un peu sophistiqué qui était périphérique, en un seul mot. Pas périphérique, mais périphérique. Alors, périphérique comme le périphérique, pas férique comme la féerie. Et puis l'éditeur, le nouveau directeur de Stock, Manuel Carcassonne, qui est un homme que j'estime énormément, a trouvé que personne ne saurait ce que ça veut dire. Les gens s'imagineraient que c'est un livre sur l'urbanisme. Enfin, bref, que ça serait pas clair, qu'il fallait autre chose. Il m'a dit, est-ce que vous avez d'autres titres en réserve? Alors, j'étais un peu interloquée quand même. Et oui, j'avais ce mal de Paris en réserve à propos d'une vieille chanson de Mouloudji qui s'appelait « J'ai le mal de Paris » et qui était une chanson que j'aimais beaucoup. Alors, ils ont cherché pour savoir s'il y avait des droits, parce qu'une chanson, il y a des droits. Et ça, chez Stock, il faut pas qu'il y ait de droits. Et comme ça n'était pas J'ai le mal de Paris, mais le mal de Paris, il n'y avait pas de droit, donc c'est le titre de l'ouvrage. Alors, pourquoi est-ce que je l'avais en réserve? Alors, je l'avais en réserve parce que je trouve que le titre est polysémique et il me convenait, parce qu'il a un double sens. Il a le sens de la chanson de Mouloudji, J'ai le mal de Paris, c'est-à-dire j'aime tellement Paris que je ne peux pas en rester éloignée, et que dès que j'en suis éloignée, comme le mal du pays, si vous voulez, ça me fait mal. Bon, ça c'est un sens qui me convenait. C'est pour ça que j'aimais la chanson de Mouloudji. Mais je trouvais que il y avait le mot mal dans le titre, et vu que j'allais évoquer quelques problèmes du Paris d'aujourd'hui, je me disais c'est très bien. Il y a à la fois j'aime Paris au point où je ne peux pas en être éloignée trop longtemps. Et puis aussi, peut-être que Paris, aujourd'hui est atteint d'un certain mal et que ça vaudrait la peine d'interroger ce mal. Donc je trouvais que le double sens pouvait tout à fait convenir au titre. C'est pourquoi il y a le mal de Paris, même si ce n'était pas mon titre initial.
Et dans le cours de votre livre, vous distinguez les notions de métropole et de mégapole. Et,
oui.
Allez-y,
oui,
allez-y.
Alors c'est un peu technique, mais tout à fait. J'ai écrit, vous y avez fait allusion tout à l'heure, j'ai écrit un livre qui s'appelle Mégapolis. Alors, il faut distinguer les géographes, les urbanistes, si vous voulez, les spécialistes distinguent d'abord, je reviendrai à la métropole après, ils distinguent d'abord une mégapole d'une mégalopole. La mégapole, au sens strict du terme, désigne les très grandes villes, les villes-mondes du monde contemporain, c'est-à-dire ces énormes villes qui sont les maîtresses absolues du monde contemporain, que ce soit New York, Tokyo, Londres, ou Shanghai, qui n'est pas tout à fait encore une mégapole, mais qui prend le chemin de l'être. Bon, les espèces de grandes villes monstres qui ont à peu près 10 millions d'habitants et qui sont des éléments économiques, culturels, fondamentaux du monde contemporain. Mégalopole étant plutôt réservée, alors que les gens les confondent, mais étant plutôt réservée à cette espèce de grand couloir de ville qui va de Boston à Washington, si vous voulez, le grand ruban qui prend évidemment New York en écharpe et qu'on appelle la mégalopole. Bon, ce sont des termes techniques. Bon, moi, j'ai voulu respecter le terme de mégapole, donc j'ai appelé ça mégapolis. Métropole, c'est un terme plus ancien, et qui désigne des villes qui sont devenues des villes importantes au moment de l'industrialisation, au XIXe siècle et au début du XXe siècle, et qui sont, comme pas forcément des capitales d'État, mais qui sont les villes importantes autour desquelles la vie économique et culturelle s'organise. Or, ce qu'il y a de drôle, c'est que dans les restructurations pensées de Paris, autour de ce qui s'appelle pas encore tout à fait le Grand Paris, mais qui devient, lors des dernières, qui est devenu lors des derniers votes, pas tout à fait définitif, mais presque, Paris Métropole, c'est le terme de métropole qui a été choisi et pas du tout le terme de mégapole, tout simplement parce que le mot mégapole fait peur. Ce sont des villes énormes. Métropole fait encore quelque chose de civilisé, si vous voulez, quelque chose de maîtrisable. Paris Métropole, ça a l'air sympathique. Paris Mégapole, ça a l'air terrifiant. Bon. Or, il s'agit du même phénomène, en fait. Il s'agit de savoir si Paris va, on va y venir, va rester cette espèce de petit bijou autour d'un périphérique qui est un véritable apartheid géographique, culturel et social, de 2 millions d'habitants autour d'une agglomération de 10 millions d'habitants. Ou si tout cela va se fondre dans un ensemble qui sera l'équivalent de Londres, de New York ou de Tokyo. Bon, alors, c'est pour ça qu'il y a une différence, mais qui est plutôt une différence de représentation entre mégapole et métropole, car le phénomène véritable est là. Il s'agit d'agglomérations énormes et Paris n'y échappe pas. Il y échappe uniquement au plan administratif, mais pas en tant qu'agglomération énorme.
Alors justement, dans Mégapolis, j'avais été sensible, dans votre chapitre sur Londres, aux expéditions que vous avez menées en prenant chaque ligne de métro et en allant jusqu'au bout de chaque ligne de métro et en découvrant ce qui se trouvait là aux extrémités de chacune de ces lignes de métro.
Oui.
Comme si Londres, au fond, avait cette espèce de poussée dans tous les sens. Alors que ce qui domine dans la représentation de Paris, c'est au contraire cette espèce de corsetage par le périphérique.
Et, ah ben oui.
Et alors donc, je suppose que ce corsetage par le périphérique fait partie de ce dont souffre peut-être Paris dans son devenir.
Oui, alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que mon livre, je ne suis pas une spécialiste ni une urbaniste. Bien, j'ai passé plus de 25 ans dans un département de sociologie, mais je suis quand même d'abord historienne. Ce n'est pas un livre de spécialiste de la ville. C'est un livre de spécialiste des représentations de la ville, autrement dire de l'imaginaire urbain, beaucoup plus que du réel urbain. Ce qui m'a intéressée, c'est l'imaginaire de Paris, plus que Paris en tant que tel, parce qu'il y a beaucoup de livres, beaucoup de sociologues, beaucoup d'urbanistes, beaucoup d'économistes qui récemment ont écrit sur la ville. Alors, je les ai lus, bien entendu, mais je me suis dit, je ne vais pas répéter une millième fois ce qu'ils ont très bien dit sur les problèmes de Paris, et en particulier de la différence entre Paris et les banlieues, et les prix du loyer, dès qu'on franchit le périphérique. Tout ça est connu et bien archivé. En revanche, il m'a semblé qu'il y avait un manque dans l'analyse de la représentation de Paris. Et là, je me suis attaquée à cela plus que... Alors, là, je vais vous dire. La représentation de Paris, et c'est pour ça qu'on va avoir du mal à franchir ce fameux périphérique, elle est extrêmement forte et extrêmement typée et comme, je dirais, figée, comme vitrifiée dans un certain nombre d'images. Et ces images, on les connaît, elles sont extrêmement fortes et ce sont toujours les mêmes. C'est ce que j'appelle un peu l'idéologie lampadaire, Fontaine-Vallas et Pavé Mouillé, ce que le Paris de Woody Allen dans Midnight in Paris, enfin avec le pont Alexandre III, l'imaginaire 1900, enfin la représentation 1900 en plus. Mais on est là dans un Paris carte postale, si vous voulez, si vous y ajoutez les monuments, la Tour Eiffel, et Montmartre, etc. On est là dans un imaginaire très fort, toujours le même, carte postale, celui qu'aiment les étrangers, qu'aiment les touristes, et qui est toujours le même. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a autre chose que cet imaginaire-là? Est-ce qu'on va trouver d'autres types de représentations? Eh bien, ce qui est drôle, c'est que c'est très difficile. Bon, je vois qu'il y a en ce moment deux grandes expositions à Paris de photographie. Il y a une exposition Brassailles à l'Hôtel de Ville et il y a une exposition Cartier-Bresson au Centre Pompidou. Bon, Cartier-Bresson fait autre chose que Paris, c'est l'ensemble de son œuvre, mais il y a beaucoup de représentations de Paris. Il est quasiment impossible d'accéder à ces expositions, même en prenant... on y arrive, mais il faut faire une queue absolument invraisemblable. Elles ont un succès fou, et surtout Brassailles, les années 20, et vraiment le Paris la nuit, ce Paris du pavé mouillé, comme très beau d'ailleurs. Et quand on demande aux gens, parce que j'aime bien faire mes petites enquêtes quand les gens sont dans la queue, en leur disant « Mais alors, pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous... » Eh bien, c'est toujours la même image qui revient. « Ah, mais on l'aime bien. Moi, j'ai vu une vue d'un square avec un lampadaire la nuit. Cette image du lampadaire la nuit ou de la pluie sur le pavé, enfin, c'est quelque chose qui réjouit tout le monde. » Alors, je me suis dit, c'est bien d'avoir cet imaginaire fort, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger à l'avoir comme ça figé une fois pour toutes? Et Paris, c'est ça. Et à chaque fois, par exemple, que je fais une causerie sur mon livre, je vais vous donner une anecdote anticipant peut-être sur une question, je l'ai fait dans mon immeuble, parce que j'habite un immeuble qui est le résultat de l'urbanisme des années 60-70, pompidolien, etc., qui donne sur la gare Montparnasse, qui est une espèce de grande barre en plein Paris, à l'ombre de la tour Montparnasse, chose qu'en général les gens détestent. Bon, j'habite donc dans un immeuble qui représente une espèce de symbole de la détestation de la restructuration de Paris. Alors, dans mon livre, je m'excite beaucoup là-dessus en disant « Mais pourtant, on y est bien, on l'aime bien, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, j'ai fait une causerie pour les gens de l'immeuble, parce que nous avons une salle associative, un peu comme celle-là, et tout le monde... les gens ont participé beaucoup et on s'est beaucoup amusé. Puis à toute fin, au moment où on allait se quitter, il y a une vieille dame qui a dit « Moi, j'ai une petite question ». Elle avait un accent espagnol très prononcé, mais elle avait l'air adorable. Alors elle me dit « Vous n'avez pas expliqué pourquoi on a construit cet immeuble et la tour tellement c'est moche, et surtout ce n'est pas ça Paris. C'est-à-dire elle a ruiné en une fraction de seconde une heure et demie de discussion où on s'était enfin mis d'accord sur toutes sortes de choses. Autrement dit, il y a quelque chose d'indéracinable dans cette représentation de Paris. On ne peut pas y substituer quoi que ce soit, parce que si on substitue quelque chose, ça n'est plus Paris. Alors tout mon livre, c'est pour lutter contre cet imaginaire figé et pour essayer d'arpenter un Paris reconstruit qui n'a certes pas le charme du Paris qu'on aime, mais qui est un lieu d'habiter, hein, habiter la ville, qui est un lieu vivant. Et sur ce plan-là, j'oppose par exemple les deux Montparnasse, puisque j'habite Montparnasse, j'oppose ce que j'appelle le côté Guermantes, qui est le beau Montparnasse du carrefour Vavin, avec ses quatre cafés qui sont l'illustration, la coupole, le dôme, la rotonde et le Select, qui sont par définition le beau Paris des années 20 que tout le monde adore. Et le boulevard Raspail par la suite, où évidemment j'aurais aimé habiter si mes parents, au lieu d'habiter dans un HLM, m'avaient laissé une fortune. Bon, ce n'était pas leur cas. Un autre Paris qui donne sur la gare, qui est tout à fait moche, comme le disait cette brave dame en disant « Vous n'avez pas expliqué pourquoi on a pu construire des choses comme ça. » Alors je le disais, il y a un Paris muséifié, ultra gentrifié, complètement inaccessible à qui que ce soit. Et puis un Paris qui est beaucoup moins beau, mais qui est extraordinairement vivant. Et il faudrait être conscient que ce sont ces quartiers qu'on dit ne pas aimer sont des quartiers extraordinairement vivants. Alors voilà, c'était un des enjeux. Pourquoi est-ce que je vous réponds ça? Parce que le problème n'est pas tant le Paris et ses problèmes réels, bien qu'ils soient très réels, que de la représentation. Alors, dans mes problèmes de représentation, franchir le périphérique est quasiment impossible. Car quand franchit-on le périphérique, par exemple dans les romans, dans les photos, il y a quand même quelques livres intéressants sur le périphérique et quelques photos de la banlieue aujourd'hui. Mais sur le plan romanesque, par exemple, il y a eu quelques romans récemment. J'ai essayé de faire l'inventaire de ce qu'on avait aujourd'hui sur le plan romanesque et cinématographique. Il y en a quelques-uns de très bons, mais sur le plan quantitatif, c'est d'une pauvreté absolument incroyable. Personne ne veut franchir le périphérique et personne ne veut écrire sur le périphérique, sauf quelques romans policiers. Voilà. Alors là, les assassinats à Aubervilliers, ça y va. La Courneuve comme zone de non-droit, ça y va. C'est-à-dire que là, sur le polar, lui, il a toute sa place en banlieue. Il est même plus à sa place en banlieue qu'à Paris, parce qu'on peut inventer des assassinats en pagaille, puisque de toute façon, on décide que ce sont des zones de non-droit où les flics ne vont même plus, et donc on peut faire, un romancier peut faire tout ce qu'on veut. Alors il noircit le tableau par le roman, parce qu'il est dans une zone de liberté absolue de création. Mais ils ne sont pas si nombreux que ça, malgré tout. Alors, donc, ce corsetage, pour réutiliser votre mot, est bien réel. Il est aussi réel dans la réalité sociologique que dans la réalité de l'imaginaire. Alors, c'est un redoublement considérable. Il faudrait faire autre chose. Donc, tout mon livre est un appel à faire autre chose, à une autre imagerie, à demander aux cinéastes de faire autre chose que ce qu'ils font quand ils... Et ils ne sont pas récompensés. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a un jeune cinéaste, enfin, il est de moins en moins jeune à mesure que j'en parle. Bon, il a été jeune. Qui a fait un livre, Le Tueur, ça s'appelle, un film qui se passe presque entièrement dans le 13e arrondissement, le nouveau 13e autour de la BNF, et un tout petit peu vers Bercy, en franchissant le pont. Donc des zones reconstruites, nouvelles, et il y a une espèce d'intrigue, bon, peu importe, c'est assez réussi. Et les critiques cinématographiques, dont les grands critiques ont dit, il a du talent, c'est un très bon metteur en scène, il est prometteur, mais pourquoi diable a-t-il choisi de se placer dans des quartiers comme ça, qui sont des quartiers sans intérêt, complètement glacés, froids, vraiment qu'on ne comprend pas. Alors, vraiment, lui, c'est ce qu'il voulait. Eh bien, on le lui a reproché. Alors que s'il avait été un peu comme dans le Paris de Woody Allen, dans des petites ruelles jolies, le crime aurait été le même, mais le spectateur, on aurait été réjoui. Tandis que là, ça lui glaçait le sang.
Dans le 13e arrondissement, il y a eu déjà les romans de Léo Mallet.
Mais oui, j'en parle. Mais alors lui, Mallet, il est encore à la période où il y a encore du populaire dans le 13e arrondissement, autour justement de ce qui est actuellement la BNF. Il parle de chiffonniers, de quartiers misérables, où il ne faut pas s'aventurer. Bon, il n'y a plus rien du tout de ça. Donc Mallet est un bon exemple d'un Paris disparu, dont il est le romancier, si vous voulez. Mais on est à la... Qui sera le romancier du Paris nouveau ?
Un des charmes de votre livre, c'est à la fois les citations que vous allez pêcher dans de très nombreux textes d'urbanistes ou de spécialistes de la ville, et ce sont des expressions qui sont toujours passionnantes. Et d'autre part, justement, la lecture à laquelle vous procédez de ces romans policiers qui sont aussi passionnants, je trouve, parce que, justement, il y a un regard qui existe. Alors, bon, est-ce que ce sont des clichés encore ou pas sur ces banlieues, sur ces diverses banlieues ou ces quartiers un peu défavorisés qui prennent un peu le relais de ce qu'on appelait autrefois la zone?
Oui, mais ce n'est même pas des quartiers défavorisés, car je dirais à Paris, il n'y a quasiment plus de quartiers défavorisés. Il y a une telle gentrification que même les quartiers dits populaires de l'Est sont maintenant pris d'assaut par de jeunes, pas vraiment fortunés, mais qui ont quand même le minimum qu'il faut. Donc, ce ne sont pas des quartiers défavorisés, mais c'est des quartiers qui sont en défaut d'imaginaire, si vous voulez, en défaut d'image. Pour reprendre le mien, j'ai traqué, parce que c'est quand même un immeuble célèbre qui a joué un rôle important en mai 68, c'était une zone de militance importante, et j'ai trouvé les traces romanesques ou pas de ce qu'on en dit. Alors il y a par exemple Romain Gary. Romain Gary était un ami du commandant René Mouchotte, qui était un résistant comme lui, qui était à Londres comme lui, et qui était aviateur. Donc, il était dans la Royal Air Force, et en tant que résistant, donc intégré aux forces britanniques. Et malheureusement, il a été descendu par un aviateur allemand, et il est mort comme cela en 1943. Donc, on a inauguré la municipalité gaulliste, je ne sais plus en quelle année, ça c'est dans le texte de Romain Gary, inauguré une rue du commandant Mouchotte à Paris. Et Romain Gary reçoit un carton d'invitation pour être présent à l'inauguration de la rue de son copain Mouchotte. Et alors, on trouve dans les écrits de Gary après, « Mon pauvre René !» Heureusement, tu es mort, donc tu n'as pas vu la rue qu'on t'a consacrée. C'est une des rues les plus dégueulasses de Paris. Tu ne peux pas savoir. Il n'y a que des... comment il appelle ça des entrepôts. Enfin, vraiment, si c'est tout ce que la municipalité trouve pour les grands résistants, enfin, ils se lamentent pendant 2 pages pour dire « Mon pauvre René, t'es pas mort pour ça, pour avoir une rue comme ça. » Bon, alors j'étais intéressée à voir que la rue avait déjà une célébrité. Je l'ai retrouvée dans un roman policier qui est consacré au 13e arrondissement. C'est quelqu'un qui tombe du tour du 13e arrondissement, dont on croit que c'est un suicide, dont on s'aperçoit très vite que la personne a été défenestrée. Bon, peu importe l'intrigue, la juge d'instruction qui est chargée de l'affaire fait aussi une psychanalyse dans mon immeuble. C'est un endroit où il y a plusieurs psychanalystes établis. Donc, elle prend sa petite voiture du quai des Orfèvres jusqu'à donc, Montparnasse. Elle se gare comme elle peut. Et le narrateur explique que deux fois par semaine, elle vient dans mon immeuble. Et alors, il y a une description de la part du narrateur. L'immeuble dans lequel la juge d'instruction allait est un des plus immondes de Paris. On dirait d'ailleurs plus une caserne qu'un immeuble. Et alors, il y a comme ça une vingtaine de lignes. Après, on reprend l'intrigue, on passe à autre chose. Alors, je me disais, il y a comme ça une accumulation de descriptions romanesques ou de témoignages sur ma rue, mon immeuble, qui sont vraiment, comme je le disais tout à l'heure, des symboles des repoussoirs absolus. Et la question que je me posais, hein, c'est pourquoi ? C'est quoi ces repoussoirs ? C'est quoi cet imaginaire qu'on n'arrive pas à faire bouger ? Prenez un exemple. Haussmann. Haussmann à Paris. Quand il y a eu les travaux d'Haussmann, qui ont duré quand même un certain nombre d'années, il faut imaginer ce que les Parisiens ont enduré pendant 10-15 ans de chantier perpétuel, de construction, de démolition. Ça a été des hurlements absolus, que ce soit de Victor Hugo à Baudelaire, enfin si on prend la littérature...
La curée de Zola. Fait,
oui, mais la curée de Zola, c'est un peu autre chose, parce que la curée de Zola, c'est le type qui s'en met plein les poches et qui va faire de la spéculation immobilière sur ce qu'on démolit. Mais je parle des jugements esthétiques, c'est-à-dire de ceux qui se lamentent sur le fait qu'on démolit Paris, qu'on démolit des quartiers entiers, et ils ne savent pas exactement par quoi on va le remplacer, mais ce qu'ils voient, eux, c'est qu'on démolit Paris. Victor Hugo n'a pas de mots assez forts et Baudelaire se lamente considérablement. Bien, Haussmann est passé par là. Or, aujourd'hui, le critère esthétique absolu, c'est Haussmann. C'est le façadisme, ce sont les avenues haussmanniennes. On ne peut pas toucher à une façade haussmannienne sans qu'on crie au scandale. Autrement dit, il y a bien un changement, par la force des choses, un changement dans le goût, dans l'imaginaire. Quelque chose s'est bien produit qui fait qu'un siècle après, on trouve beau ce qu'on a trouvé horrible au début. Bon, alors, il est vrai que l'urbanisme des années 60 a été quelque chose qu'on peut critiquer, et je serai la première à le faire, sur le plan de la priorité absolue donnée à l'automobile, sur le plan du style international hérité de Le Corbusier qu'on a voulu donner à beaucoup de choses. Enfin, il y a énormément de critiques à faire, mais ça n'est pas pour autant le massacre absolu qu'on veut bien signifier. Et un peu bon, alors je ne me fais pas d'amis hein, avec ce livre, enfin, il y a des tas de gens qui le trouvent passionnant, mais il y en a qui me disent quand même, si on ne peut plus critiquer, mais bien sûr je dis on peut critiquer, mais imaginez une fraction de seconde qu'on ait décidé de reconstruire tout ce qu'on a détruit à l'identique. Mais ce serait un Disneyland permanent. Il fallait bien trouver d'autres solutions. Et j'en parle d'autant plus aisément que j'ai habité, moi, petite, dans ce qu'on appelait l'îlot insalubre numéro 7. On a fini par s'appeler comme ça. On dit, vous êtes qui, vous ? Moi, je suis l'îlot insalubre numéro 7. C'était un quartier de Belleville-Ménilmontant. Bon, en tant que Bordelais, ça ne vous dit rien. Mais enfin, un quartier populaire de l'est, du nord-est de Paris. Qui a été entièrement démoli, même le tracé qui n'est plus le même. Bon. Alors, on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'à l'époque, on ne réhabilitait pas, puisque c'est l'expression urbanistique consacrée, les immeubles, pourquoi on les démolissait pour reconstruire à la place des cages à lapins ou Dieu sait quoi ? C'est très facile, ça coûte infiniment moins cher, on n'allait pas reconstruire dans les quartiers populaires, des habitats à l'identique qui étaient des labyrinthes invraisemblables, qui étaient le vieux Paris, impossible sur ce plan à sauver. Bon, peut-être que s'ils avaient été habités par d'illustres personnes, on aurait considéré les choses autrement. Mais vu qui habitait là, ça a été complètement démoli. Bon. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que je suis une victime absolue de ce nouvel urbanisme, puisqu'on a été éjecté et envoyé ailleurs. Mais pour autant, je ne considère pas que ce qui a été fait à la place est l'horreur absolue et que seuls les immeubles haussmanniens très beaux à 200 mètres carrés et l'appartement sont valables sur le plan esthétique.
Alors dans votre livre, on trouve énormément de références littéraires qui sont d'ailleurs soit fidèles à des immeubles qui existent ou qui ont existé, soit quelquefois des adresses imaginaires.
Ça, c'est quand je fais allusion, par exemple, à Pérec.
Voilà, c'est ça, à Pérec ou aussi à Modiano.
Ah ben oui.
Bon, moi, je suis admiratif de tout ce que vous avez pu lire sur cet habitat parisien et sur cet imaginaire qui est lié à ces différentes formes d'habitat, par témoignage, soit par fiction. Et donc, je trouve que votre livre est passionnant à cet égard. Alors, il y a une autre chose que je trouve intéressante, ce sont les différents lieux où vous-même vous avez habité. Vous avez cité Ménilmontant, Belleville. Vous avez cité le Montparnasse du côté de la rue du Commandant Mouchotte. Vous citez aussi Montreuil, vous avez habité, et également du côté de la rue Mouffetard.
Oui, la rue Mouffetard, j'ai habité rue Mouffetard.
Oui.
À un moment où elle n'était pas encore tout à fait gentrifiée. C'est-à-dire que j'étais dans un appartement assez beau, dont la propriétaire était une 68arde attardée, et qui m'avait demandé un loyer relativement dérisoire. Mais elle pouvait le demander parce que et la salle de bain et la cuisine étaient complètement délabrées. C'est-à-dire on pouvait quand même se laver dans la salle de bain, c'était bien. La cuisine, on ne pouvait pas faire grand-chose. Mais enfin, les salles à vivre, les pièces à vivre étaient belles. Bon. Et puis cette brave dame est morte subitement. Rupture d'anévrisme, je ne sais quoi. En tous les cas, rien ne laissait prévoir cette mort subite. Et un de ses parents a repris l'affaire, est venu me voir en m'expliquant qu'il allait rénover la cuisine parce qu'elle c'était pas possible, une cuisine pareille, j'étais bien d'accord, qu'il allait aussi rénover la salle de bain, mais que bien sûr, comme il me l'a dit, je crois que c'est ces termes que je rapporte dans le livre, il allait le louer aux conditions du marché. Et quelles conditions du marché? Doublaient ou triplaient le loyer. Et évidemment, j'étais dehors assez vite. Et c'est comme ça que j'ai abouti rue du Commandant Mouchotte après avoir vécu rue Mouffetard. Mais je l'évoque, parce qu'il y a des aspects autobiographiques dans le livre, mais je l'évoque aussi pour montrer ce qu'est la marche de la gentrification dans Paris. C'est-à-dire, j'étais pas la plus misérable des locataires de la rue Mouffetard, mais j'étais sans doute une des dernières à bénéficier d'un loyer modéré. Et c'est devenu une rue refaite, rénovée, inabordable pour le commun des mortels aujourd'hui, bien entendu. Bon, même si les gens adorent y faire leur marché, c'est quelque chose de célèbre, la rue Mouffetard, un peu snob, mais il est devenu très difficile d'y habiter. Alors j'évoque comme ça, mes pérégrinations, mais ces façons de changer d'habitat, si vous voulez, à travers quand même quelques décennies, depuis mon enfance, dans Paris, en montrant, bon, nous on a été éjectés complètement de l'îlot insalubre numéro 7, relogés dans des HLM, et nous avons eu beaucoup de chance, car la plupart des gens de ce passage ont été relogés en banlieue, en Nanterre en général. Nous, je pense que mon père a dû intriguer, on a été relogés tout près dans des HLM, donc toujours à Belleville, Ménilmontant. Et puis bon, après, j'étais normalienne et donc j'étais interne ailleurs. Mais quand je suis revenue, à Montreuil, où j'ai habité quelque temps, et puis après un divorce, alors je n'en raconte pas, ce n'est pas l'histoire de ma vie, le livre, hein, mais j'ai habité rue Mouffetard, et après la rue Mouffetard, Montparnasse. Donc j'évoque ces lieux comme des itinéraires autobiographiques qui ponctuent en même temps la marche de la gentrification. Et même Montreuil, qui est pourtant en banlieue, oui, a beaucoup, beaucoup changé. D'ailleurs, c'est un enjeu des municipales de bientôt. Et beaucoup d'artistes y ont leurs ateliers, d'anciens petits ateliers qui ont été transformés en loft aujourd'hui. Enfin, une marche inexorable qu'on voit même dans la banlieue proche. Et j'imagine que Bordeaux, à cet égard, n'est pas une exception, que la gentrification y est forte, d'après la beauté du centre, et que j'imagine les quartiers populaires sont tous en périphérie maintenant. J'imagine. Bon. Alors, le livre rend compte de cela, mais encore une fois, comme vous le dites, je m'appuie beaucoup sur les écrivains, les cinéastes ou les témoignages, parce que ma visée est une visée de représentation de l'image qu'on a d'une ville, l'image de Paris. Bon, s'attaquer à l'image de Paris, c'était un peu une folie. Mais de mon point de vue, ça ne l'était pas, parce que je savais où je voulais en venir. Je savais que c'était un imaginaire figé et que donc j'avais toute l'attitude pour pouvoir parler d'autre chose.
Alors justement, il existe un contraste, je trouve, entre la mobilité des villes et votre sensibilité très grande à cette mobilité, à ces changements qui surviennent dans la ville. Et de l'autre côté, dans le cas de Paris, ce fait de la pétrification de l'imaginaire, justement.
Hein ? Oui, c'est un contraste, parce que c'est une ville extraordinairement vivante. Et les gens y circulent énormément. Donc, mon propos n'est pas de critiquer la vie à Paris. Elle est difficile, comme dans toutes les mégapoles, mais elle est extrêmement vivante. C'est l'imaginaire de la ville que je critique, c'est-à-dire cette espèce de contraste. Jusqu'où est-ce qu'il peut aller avant d'éclater ou que quelque chose se produise. Mais ce contraste entre une ville, une des grandes villes du monde aujourd'hui, extraordinairement vivante, et puis cette espèce de façon d'en parler, ou de la représenter, ou de la photographier. Encore que la photographie, c'est peut-être par là que les choses bougent le plus, la vidéo et la photo. Mais les grands cinéastes et les romanciers s'y hasardent difficilement. Quand ils s'y hasardent, comme il y en a qui le font, hein, bien sûr, ne prenez pas ces propos comme des choses absolues. Il faut être souple. Mais en général, ils se font taper sur les doigts. Je pense à cet auteur, dont le nom m'échappe, mais vous allez le retrouver, qui a écrit un roman qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle Les Lisières, à propos de la banlieue.
Jonquet ?
Non, c'est pas ce nom-là. Bon, et j'ai entendu sa critique, la critique de son livre « On masquait la plume » ou à d'autres émissions, où on essayait de le tailler en pièces, et à mon avis, une des raisons, c'est parce qu'il choisissait le terrain de la banlieue, tout simplement, et que ça énervait ceux qui étaient autour du micro, qu'on parle d'autre chose que de ce à quoi ils sont habitués. Je trouve qu'on paye cher, enfin, il a eu un succès de lecture, mais je trouve qu'on paye cher le fait, justement, d'essayer de bousculer ces images figées.
Alors justement, vous consacrez aussi certains passages à des quartiers avec des populations mélangées, oui, notamment dans le 18e arrondissement, oui, et vous évoquez l'analyse qu'en propose Jean-Christophe Bailly. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces mélanges de populations ?
Alors, Jean-Christophe Bailly, il ne se hasarde pas vraiment, mais il l'évoque parce qu'il dit... Et à propos de Montreuil ou d'autres endroits où il a travaillé, déjà où il a fait déjà d'autres textes, et en particulier un texte avec un photographe sur la rue de Montreuil, le passage de Paris à Montreuil, et une rue qui est extraordinairement bigarrée. Alors, il ne sait pas vraiment comment penser le phénomène, ce qui est tout à sa gloire, parce qu'on a vite fait de catégoriser tout ça, et lui, qui n'est ni sociologue, qui est un écrivain, philosophe, essaye de saisir cette espèce de bigarrure pour laquelle il n'a pas vraiment encore de concept. Et il propose cette chose assez qui m'a fascinée, qui est le bariole, une espèce de mot-valise, qui est une espèce de mot fait avec barrio en espagnol, quartier, et bariolé, et il en fait un seul mot en disant il y a quelque chose d'une mixité non pensée, d'une hétérogénéité nouvelle à propos de laquelle on n'a pas de concept, que les sociologues appellent d'une certaine façon. Mais moi, je propose, dit-il, je ne vais pas plus loin, mais je propose ce bariole qui est peut-être une façon de penser l'avenir sans catégoriser trop fortement ce qui se passe. Et ça m'a paru tout à fait fascinant, cette proposition du bariole. Effectivement, quand j'ai cherché à voir ce qui s'était écrit, alors je ne parle pas des sociologues, de toute cette machinerie très lourde qui s'est écrite sur l'hétérogénéité, la mixité dans ces quartiers, mais d'écrivains, etc. On retombe sur ces romans policiers qui sont tout à fait intéressants et fascinants, mais qui fichent quand même un petit peu ces catégories. Tandis qu'au moins, Jean-Christophe Bailly essaye d'ouvrir tout cela, parce que je crois qu'on n'arrive pas, on est plein de préjugés, on n'arrive pas à penser véritablement cette hétérogénéité. Or, il faudrait pouvoir la penser, parce que c'est elle l'avenir, cette hétérogénéité. Mais non seulement on n'arrive pas à la penser, mais on n'arrive pas à la représenter. C'est ça mon problème.
Alors, pour revenir à ce corsetage, à la fois de la ville et peut-être de l'imaginaire, j'ai trouvé intéressante la comparaison que vous faites à un moment donné avec Venise et avec le livre de Régis Debray, Contre Venise, qui personnellement m'a beaucoup intéressé, même si peut-être le titre est peut-être provocateur, parce que Régis Debray aime Venise. Le Contre Venise, c'est contre une Venise touristifiée qu'il s'insurge. Or, il se trouve que, dans le cas de Venise, il s'agit d'une île. Et donc, la ville de Venise, indépendamment de Mestre et du continent, est elle aussi corsetée, en quelque sorte, sur ses îlots. Et il se trouve que Venise est mal en point, en quelque sorte, à cause de ce phénomène de la touristification qui fait que la ville devient invivable pour les Vénitiens et qu'elle se vide d'ailleurs. Actuellement, il n'y a plus que 60 000 Vénitiens qui habitent à Venise. Les commerces de proximité ferment, etc. Ce qui fait que la vie au quotidien est difficile pour les Vénitiens, alors que vous avez de très riches résidents une semaine à l'année qui achètent des palais ou des portions de palais, ce qui fait que... alors, je me demandais si ce phénomène qui concerne Venise n'est pas aussi quelque chose qui, en un sens, peut menacer Paris, si Paris ne trouve pas une solution pour se libérer de ce corsetage, à la fois du périphérique, mais peut-être aussi de l'imaginaire.
Oui, vous avez raison. Simplement, les proportions ne peuvent pas être les mêmes parce que Paris est une capitale. Venise ne l'est pas. Donc, il y a toutes sortes de fonctions politiques, culturelles que Venise n'a pas.
A perdu, en tout cas.
Depuis longtemps. Venise est vraiment réduite presque entièrement à une fonction touristique massive. Comme vous évoquez les 60 000 habitants qui deviennent 3 millions l'été. Bon, les 60 000 habitants... fiche le camp, si j'ose dire, au début du mois d'avril et essaye de revenir en octobre. Alors, ils font beaucoup d'argent en louant leur appartement pendant toute la saison touristique, mais ils fuient. Bon, ce n'est pas possible, cette chose-là n'est pas possible à Paris. Mais ce que les sociologues ont quand même montré, c'est qu'il y a de plus en plus à Paris de ventes d'appartements, souvent de petits appartements, à des Américains, des Allemands,
des Chinois,
moins les Chinois pour le moment, mais ça va venir, qui les achètent et qui sont des résidents pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, et puis rien. Et ce sont des gens qui, quand on les interviewe, parce qu'il y a eu des études de fait, ne s'estiment pas du tout être des touristes. Ils sont des espèces de Parisiens résidents un mois par an. Ils adorent Paris où ils viennent l'automne ou le printemps, etc. Mais c'est autant d'appartements qui sont soustraits à la location permanente. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui devient massif et qui fait monter les prix à la location puisqu'il réduit le champ du nombre des appartements à la location par cette espèce de résidence très temporaire. Donc ce phénomène-là existe aussi à Paris, mais c'est à une telle échelle qu'évidemment jamais Paris ne ressemblera à Venise. Mais des phénomènes de muséification, de figement, existent aussi à l'État, évidemment. Il n'y a aucune proportion entre les deux, mais vous savez, le nombre de touristes à Paris, c'est, je crois que c'est, j'ai oublié le chiffre, mais c'est absolument massif, massif. C'est cette espèce de touristification, on ne peut pas l'empêcher, mais on pourrait habiter à côté, sans être complètement écrasé par ces éléments qui figent encore plus l'imaginaire. Je prends un exemple qui est drôle, d'un écrivain qui raconte ses mésaventures. Il habite vraiment dans un quartier très touristique, mais lui, il habite, c'est un Parisien. Et il a au pied de chez lui des musiciens ambulants, ça existe encore, avec orgue de barbarie et accordéon, qui jour et nuit jouent des airs que chantait Edith Piaf sans arrêt, sans arrêt. C'est des Roumains qui se sont installés là. Et un jour où il est absolument excédé d'entendre toujours la même chose et pendant des heures, il descend et vient parler avec eux. Et leur dit, mais écoutez, d'abord, pourquoi vous jouez tout le temps et pourquoi toujours les mêmes airs? Et ces airs, j'en ai un, padam, padam, j'en ai plein le dos. Et alors, ils lui répondent, mais nous aussi. Mais on est payés par des organismes touristiques pour jouer ça, parce que les touristes qui passent par là, c'est ça qu'ils veulent entendre et rien d'autre. Alors, nous, on gagne notre vie comme on peut, et nous, on joue ces airs. Alors, il est retourné chez lui en disant « Je suis condamné à ces chansons d'Edith Piaf pour l'éternité, parce que ces malheureux gagnent leur vie ainsi. » Alors, si je prends cet exemple, ce n'est pas simplement parce qu'il est plaisant, c'est parce qu'il continue cette espèce de roue de l'imaginaire figé qui se renforce à l'infini. Pourquoi jouer éternellement de l'Édith Piaf ou du Charles Trenet? J'ai rien contre, j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'à longueur de journée, je deviendrais folle si je
le sentais. Oui, parce qu'on est dans le cliché à perpétuité.
On est dans le cliché total, et pourquoi pas de temps en temps, mais que perpétuellement, et qu'on soit dans l'impossibilité de renouveler, c'est quelque chose, c'est tout l'objet de mon livre.
Alors, de l'autre côté, vous envisagez quelques solutions éventuelles, notamment à propos de la banlieue ou même de la très grande banlieue. Et vous dites qu'au fond, ce qui manque peut-être, ce sont certains symboles qui pourraient modifier la situation.
Oui, alors, je n'ai rien inventé du tout parce que j'en suis totalement incapable. Je m'appuie sur un certain nombre d'architectes et d'urbanistes qu'on a sollicités au moment des discussions sur le Grand Paris, en particulier Castro, qui imaginaient des ensembles, une sorte de monumentalisation nouvelle. Et tous les monuments sont à Paris. Bon, pourquoi ne pas créer un nouvel arc de triomphe quelque part? Alors, ce ne serait pas l'arc de triomphe belliqueux que nous avons, ce serait autre chose. Pourquoi ne pas inventer une nouvelle tour, qui ne serait pas évidemment la tour de Monsieur Eiffel, mais autre chose, et qui proposait comme ça, dans des coins qui n'ont rien de charmant aujourd'hui, d'instituer cette espèce de nouvelle architecture, de nouvelle construction architecturale qui aurait une valeur symbolique. qu'on appellerait, je ne sais pas, l'arc de triomphe de la fraternité, enfin, inventer n'importe quoi, puisque tout est ouvert. Mais ça me semblait tout à fait intéressant. Évidemment, totalement irréalisable, ne serait-ce que pour des raisons financières aujourd'hui. Mais sur le plan symbolique, simplement que de l'évoquer, et rien que de l'évoquer, ça paraît tellement incongru, que c'est ça qui est fascinant. C'est le caractère incongru de la réception. On le regarde comme s'il était un peu fou.
Mais vous savez, regardez par exemple comment le musée Guggenheim à Bilbao a changé totalement le devenir de la ville.
Oui, mais il n'est pas en banlieue.
Non, certes.
Mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est des discussions qu'on avait pour Marseille avec le MUCEM. On s'est dit, est-ce que le MUCEM à Marseille ne va pas complètement modifier ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un effet Guggenheim avec le MUCEM ? C'est tout à fait possible. Et les propositions de ces architectes pourraient avoir des conséquences de cet ordre. Mais ça demanderait des infrastructures financières considérables qui ne sont pas à l'ordre du jour pour le moment. Alors, ce ne sont pas des solutions, c'est simplement que ces textes m'ont fascinée et que je les évoque en disant « mais pourquoi pas ?» Mais ce qui m'a intéressée, c'est le caractère incongru dans la réception. Il est passé pour fou à un moment donné, Castro. On a dit « bon, c'est un architecte utopiste, visionnaire, ça va bien, 5 minutes, c'est tout à fait intéressant. » Mais revenons aux choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est les stations de métro du futur grand métro de Paris quand on réalisera le Grand Paris. Alors parlons des gares. Ça sera intéressant, mais pas une espèce de monumentalisation qui repose sur rien. Bon. Pourquoi pas ?
De notre côté aussi, vous envisagez de résoudre la question du périphérique aussi, c'est-à-dire ?
Oui, alors pas de la résoudre, parce qu'elle est... mais le périphérique, il a quand même donné lieu à beaucoup de choses. Hein. Il y a des choses... Alors, l'idée de le recouvrir entièrement, c'est impossible, mais il y a, à certains endroits, des continuités urbaines qui sont assez réussies. Par exemple, la Porte des Lilas. La Porte des Lilas, là, il y a une partie du périphérique qui a été recouvert. Il y a un square qui a été fait, donc une espèce d'espace vert, mais petit. Il y a un grand cinéma de multiples scènes, de salles qui a ouvert, avec une terrasse au sommet de la construction de ces multiples cinémas. Il y a un certain nombre d'éléments qui font que quand on passe de Paris à au Lilas, à la limite, quand on n'est pas très parisien au courant, on ne voit plus où est le passage de Paris et de la banlieue. C'est quand même une réussite, parce que je peux vous dire qu'en général, on le voit, le passage. Il saute aux yeux. Alors, on a comme ça certains coins où il y a eu des recherches urbanistiques assez réussies. Bon. Mais on en est loin. Hein. Et ça avait commencé il y a longtemps, et je ne suis pas sûre qu'on ait maintenant la mobilisation financière pour le continuer. Mais il y a eu quand même, alors il y a certains coins où il est recouvert, il y a certains coins où il y a comme ça des réalisations urbanistiques intéressantes, le tramway qui passe permet de nouvelles... possibilités urbanistiques. Bon, il y a tout ça est en marche, mais le périphérique est quand même toujours là, même si on a réduit la vitesse.
Oui, parce qu'au fond, un des problèmes qui se pose, c'est le problème des flux, d'organiser ces flux et peut-être de fluidifier, si je puis dire, certains de ces flux.
Les seuls qui ont... Il y a comme ça des plaisantins qui ont voulu domestiquer le périphérique. Alors, il y a d'abord ceux qui ont décidé que les limites de vitesse, ça ne les intéressait pas. Certains fous du volant qui ont traversent le périphérique à 200 à l'heure, qui se sont fait arrêter quand même assez vite parce que c'est extrêmement dangereux, mais enfin, ça existe. Il y a aussi ceux, je prends l'exemple d'un mariage, noce, qui a décidé de célébrer la noce en plein périphérique. Donc, ils se sont installés, et avec la mariée en blanc et tout le cortège, à pied, au milieu du périphérique. Alors, c'est dangereux, puis les voitures étaient obligées de freiner. Il y a eu un embouteillage épouvantable. Évidemment, il y a un des automobilistes qui a appelé les flics assez vite et ils sont arrivés. Je crois qu'ils ont été condamnés à une amende de 15 000 euros. Mais en tout cas, ils avaient décidé, ils en avaient marre de voir ce périphérique. Ils habitaient pas loin. Ils se sont dit, dans le fond, nous, on va marcher au milieu du périphérique. Ce sera ça, notre noce. Et pourquoi pas ? C'était drôle. Enfin, c'est pas ça qui va régler les problèmes. Mais au moins, quelque chose bouge dans l'imaginaire. Parce que moi, j'aurais jamais eu l'idée de me marier au milieu du périphérique, ça, je peux vous le dire. Bon, mais il y a quelque chose. Alors, c'est des tordus, bien sûr. C'est des... Mais est-ce qu'il faut ça pour faire bouger cet imaginaire figé ?
Il faut en tout cas peut-être de l'imagination, tout simplement.
Absolument. Mais le passage à l'acte peut être dangereux.
Bien, ben écoutez, merci, merci d'avoir été très attentif. Bonne lecture.
Merci à vous.